m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie,
courtoisie.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour chers auditeurs, heureux de vous retrouver en compagnie de toute l'équipe de Restons Courtois du vendredi soir, 17h30, 19h30, émission réalisée en partenariat avec Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite. Vous connaissez la formule, c'est parti pour 2 heures avec ce soir 3 voix d'exception pour observer l'envers de l'actualité de notre cher et vieux pays. Damien Chalamel est là, homme de culture, de combat, avocat, spécialiste de la propriété intellectuelle. Bonsoir Damien.
Bonsoir cher Marc.
Chers auditeurs.
Philippe Charlez, ingénieur des mines de l'école polytechnique de Mons, docteur en physique de l'Institut de physique du Globe de Paris. Nous avons la chance de l'avoir ce soir, il est spécialiste de l'énergie. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Marc, je ne prendrai pas l'accent belge ce soir.
vous nous ferez quand même un petit épisode, j'espère. Hein. Et Yves-Marie Sevilla, journaliste politique à Boulevard Voltaire, excellent journaliste politique. Bonsoir Yves-Marie.
Bonsoir Marc, bonsoir à tous.
Vous pouvez, chers auditeurs, nous appeler au 01 46 51 00 85 ou nous envoyer vos courriels à courtoisie@rc.fr. On les lira à l'antenne dans toute la mesure du possible. Vous êtes tous les bienvenus. Martine vous attend au standard. Au programme ce soir, édito, on va parler de l'essence. Tiens, ça concerne pas mal de gens quand même, pas mal de Français. Jusqu'où montera l'essence et qui en profite? Et chose exceptionnelle aujourd'hui, c'est Philippe Charlez qui se chargera de répondre définitivement à la question et qui me remplacera donc dans le rôle d'éditorialiste. Voilà, avec talent, bien sûr.
Espérons-le.
Après la commission d'enquête de Charles Alloncle, l'audiovisuel public fera-t-il sa révolution? Ce sera notre grand dossier du soir avec Anne Sicard, députée Identité et Liberté, qui nous rejoindra et membre de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Elle a assisté à tous les débats. Ça va être absolument passionnant. On saura tout à quelques jours de la parution du rapport de Charles Alloncle sur cette commission d'enquête. De la parution ou de la non-parution. On verra ça avec Anne Sicard tout à l'heure. Dans deuxième partie, nous nous pencherons sur une enquête, une grande enquête de Boulevard Voltaire, une politique dévouée à la cause du financier Georges Soros. Cette politique, cette femme politique, c'est Nathalie Loiseau. Samuel Martin, qui a fouillé la question et qui a fait un passionnant article à ce sujet sur Boulevard Voltaire, qui est sorti hier, nous rejoindra en direct à Radio Courtoisie. Et puis, nous aurons notre traditionnel clin d'œil culture. Ils ont tous préparé un petit mot sur ce qu'ils ont vu, lu, entendu, remarqué de culturel cette semaine. Et moi, j'aurais un très mauvais exemple, hein, j'aurais un truc à fuir. Voilà. Auparavant, traditionnel tour de l'actualité. Qu'avez-vous retenu de l'actualité de cette semaine? Philippe Charlez.
Oui, alors un événement pas très glamour, hein, c'est la fermeture de l'usine Stellantis à Poissy. Donc une usine qui initialement était Simca. Alors, il restait 2000 salariés et il n'en restera plus que 1200 puisqu'on va arrêter de fabriquer des voitures et ne plus fabriquer que des pièces détachées. Alors, j'ai fait un petit flashback. Est-ce que vous savez que dans les années 70...
Attention au cochon.
Dans les années 70, il y avait 27 000 salariés. Il en reste 2000 aujourd'hui.
27 000 salariés,
27 000 salariés à Poissy.
À Poissy,
27 000.
Ah là là, incroyable.
12 000 dans les années 60, 27 000 au plus haut du pic dans les années 70. 2000 aujourd'hui, il en restera 1200 après l'arrêt des activités. Donc tout ça nous montre l'image désolante de la désindustrialisation et aussi l'image désolante de la descente aux enfers de l'industrie automobile européenne, parce que ça n'est pas seulement le cas en France, c'est aussi le cas en Allemagne, c'est aussi le cas en Italie. L'industrie automobile, avec ses sous-traitants, c'est 15 millions d'emplois en Europe. Et c'est une descente aux enfers que je vois mal aujourd'hui s'arrêter. Alors je rappelle qu'on a abandonné pratiquement le véhicule thermique au profit du véhicule électrique et que sur les véhicules électriques, on a environ 15 ans de retard sur la Chine, alors que sur les véhicules thermiques, on avait encore largement un avantage compétitif par rapport à la Chine. Je dis toujours que s'il y avait la Formule 1 aux Jeux Olympiques, les Européens auraient toutes les médailles et la Chine ne ferait que de la figuration. Voilà, donc c'est dommage de ne pas avoir suivi.
Une balle dans le genou,
voilà,
tout
c'est
ça,
comment dommage de ne pas avoir suivi Carlos Tavares qui en 2019 avait dit que le tout électrique ne serait pas possible et que nous avions encore des marges pour réduire par deux la consommation des voitures thermiques. Aujourd'hui, on est à 6 litres au 100. On a toute la technologie pour descendre à 3, mais encore faudrait-il réinvestir dans le thermique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a engager la mutation vers l'électrique en Europe et on ne reviendra pas en arrière. Donc je crois que c'est un événement très triste.
Merci à nos amis écologistes et à ceux qui les écoutent. C'est ça, la conclusion.
C'est à peu près ça. Merci à l'Europe aussi.
Et merci à l'Europe, bien sûr, qui devait sauver l'industrie française et nous apporter la prospérité. Voilà. On voit ce qu'il en est.
Le dernier discours de M. Lecornu sur l'électrification des usages à court terme ne va certainement pas sauver la voiture électrique européenne.
Mais ouais, ça nous mènerait trop loin. Est-ce que la crise actuelle du pétrole là, que nous vivons dans le conflit ne va pas tant pas à plaider en faveur de cette mutation?
Alors ça plaide en faveur de cette mutation, sauf
alors,
que cette
mutation...
on va pas anticiper
sur l'éditorial brillant.
Non, mais l'éditorial n'est pas sur les voitures. Ce que je veux dire, c'est que oui, effectivement, électrifier la mobilité est important, sauf qu'aujourd'hui, les voitures ne seront pas fabriquées en Europe, mais sont fabriquées dans le sud-est asiatique, tout simplement, parce qu'ils ont à la fois une avance technologique et que c'est beaucoup moins cher.
Ouais, tout le problème de la main-d'œuvre. Yves-Marie Sévillan, puisque vous avez la parole.
Oui, écoutez, moi j'ai noté qu'encore une fois, la France insoumise se dresse contre les banquets du canon français. Le canon français, donc, étant cette entreprise qui organise des grands événements conviviaux. Avec plusieurs milliers de personnes
qui chantent
et qui dansent et qui mangent effectivement du porc. Et donc effectivement, par exemple, le prochain est à Caen et les élus insoumis se dressent à nouveau contre cette initiative. Emma Fourreau, eurodéputée LFI,
il y a des vrais combats. Hein.
Veut interdire, je cite, le banquet de la haine tout de même. Ouais. Et donc je fais le lien avec ce qui se passait il y a une toute petite semaine au sein de l'hémicycle à l'Assemblée nationale, à savoir que la même France insoumise, avec énormément d'enthousiasme, a défendu les rêves partis. Donc effectivement, les fêtes illégales, elles sont promues par la France insoumise.
Là, il n'y a pas de problème.
Et là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'en fait, on a même un député, Antoine Léaumont, par exemple, du parti de Jean-Luc Mélenchon, qui évoquait la comparaison, le fait d'enfreindre la possibilité de se rassembler illégalement pour danser dans une rêve partie. C'est une comparaison avec le régime des Mollahs et le régime de Vichy, tout simplement. Parce que c'est un empêchement de faire
c'est
la fête.
En toute modestie, hein, et en toute proportion gardée, évidemment. Alors, excellent. Damien Chalamel, une petite actualité qui vous a saisi.
Oui, mais c'est une actualité qui n'est pas propre à cette semaine, mais qui continue, qui est je me rends sur un terrain miné. C'est celui de l'hubris israélien. Et de voir ces troupes israéliennes, mais je le dis comme je le pense, envahir le Liban, provoquer plusieurs centaines de milliers de réfugiés. Donc moi, le vœu que je forme, que nous formons tous bien évidemment, c'est que ces violences cessent.
Et que les États-Unis ont sifflé l'arrêt de la récréation pour l'instant.
Oui, mais je crains que le rêve du grand Israël ne subsiste dans les esprits quelque peu échauffés. Et j'espère que Bon, qui sera mis fin à ce déferlement de violence.
Vous mettez les pieds sur...
Nous pensons aux Libanais, bien évidemment, aux populations civiles libanaises.
Sur un débat complexe, parce que...
Bien sûr.
Parce que faire face au Hamas et autres sympathiques garçons...
En l'occurrence, c'est plutôt le Hezbollah.
Quand même pas, ou au Hezbollah, quand même pas chose facile.
Hein,
vous l'admettrez, non?
Certes.
Bon.
Je pense que les accords entre israéliens et libanais ne sont pas faciles parce que on veut faire des accords en éliminant le Hezbollah, ce que je veux bien comprendre. Mais il faut quand même savoir que le Hezbollah n'est pas seulement un mouvement terroriste et un mouvement paramilitaire, que c'est aussi un mouvement politique. Et je pense que dans le gouvernement libanais, il y a plusieurs ministres du Hezbollah.
Absolument.
Donc, j'ai du mal à comprendre comment est-ce que cet accord entre Libanais et Israéliens pourra se faire en excluant le Hezbollah, qui d'ailleurs a raison ou à tort apprécié caritativement de la part d'un certain nombre de Libanais, parce que le Hezbollah avait beaucoup d'argent qu'il injectait.
Donc ils arrosent un peu toute la population du Liban. Mais on en avait longuement parlé ici, on en reparlera, c'est un dossier d'une complexité absolue et grave, parce qu'il y a quand même énormément de victimes là-bas. Moi, je voulais vous parler de France Inter. Alors, c'est plus rigolo, y a moins de morts. France Inter, est-ce que les audiences sont si bonnes que cela? Parce que Médiamétrie a donné les audiences radio des deux derniers mois, cette semaine. Et j'ai remarqué que chacun voyait un peu midi à sa porte. Alors, le monde ne se tient plus de joie, en réalité. France Inter continue d'être l'antenne la plus écoutée de France et Radio Nova progresse de manière spectaculaire. C'est le titre du quotidien du soir qui fait des très longs titres. Et ça m'a paru à minima incomplet, le titre. Parce que France Inter reste en effet la station la plus écoutée de France, ça, il n'y a pas de problème. L'absence d'ailleurs de publicité à l'antenne est évidemment un avantage concurrentiel majeur pour France Inter. Merci aux contribuables. On en parlera peut-être tout à l'heure avec Anne Sicard. Mais le quotidien masque, en tout cas dans son titre, d'abord, une sévère baisse d'audience qui a été enregistrée sur cette vague. France Inter, qui fait le choix d'un ton très très à gauche, a égaré 170 000 auditeurs depuis un an et 100 000 sur les trois derniers mois. Alors 100 000, c'est quand même l'équivalent de la population de la ville de Nancy, qui a pris ses jambes à son cou et qui a lâché France Inter. Donc, pour une station qui continue d'être l'antenne la plus écoutée de France, comme le dit triomphalement Le Monde, c'est quand même un petit écueil, un petit caillou dans la chaussure, on va dire. Et Télérama résume ça en toute objectivité, Radio France au beau fixe. Voilà, la maison ronde, France Inter, France Culture, etc. Toutes les radios de Radio France, donc, passent pourtant sur un an de 26% à 25,3%, donc ça baisse aussi. Mais Radio France au beau fixe. Bon, voilà, c'est le beau fixe qui se gâte quand même. Mais la vérité est souvent un peu à l'étiage de ce qu'on voudrait qu'elle soit. On le sait dans le service public. Donc là, on y est. Voilà.
Et ces chiffres sont-ils proportionnels par rapport à la diffusion des radios? C'est la question que je me posais l'autre jour.
C'est-à-dire proportionnel.
Parce qu'on sait que France Inter est accessible de manière beaucoup plus large et systématique sur l'ensemble du territoire. Donc là, vous avez absolument du coup parfaitement raison de souligner la baisse, mais cette proportion, quand on parle toujours effectivement de radio la plus écoutée de France,
Bien sûr,
c'est forcément lié à cette capacité de diffusion.
Non seulement elle n'a pas de publicité, mais c'est la station la plus diffusée, y compris dans tous les recoins des campagnes françaises, ce qui n'est le cas d'aucune radio privée. RTL ne couvre pas la totalité du...
Europe 1 non plus.
Europe 1, bien moins. Encore que RTL.
Mais bien sûr, mais quand on fait un trajet dans notre cher pays, très souvent, on tombe sur France Inter ou France Culture.
Exactement.
Et c'est uniquement les seules radios avec la radio locale qui sont captées.
Vous pouvez aller dans tous les fonds de campagne, Radio France est reçue, enfin Radio France, France Inter surtout, et France Info sont reçus absolument partout. Mais surtout France Inter. Je crois que France Info, il y a encore quelques manques. J'avais étudié ça de très près pendant un temps. Voilà. En tout cas, ça nous amène vers le service public dont nous reparlerons tout à l'heure avec la députée Anne Sicard, qui nous rejoindra dans quelques instants, juste après l'éditorial de Philippe Charlaise. Mon cher Philippe,
oui, Marc.
On va parler pétrole. Je vous ai donc
essence,
confié, oui, essence, mais c'est quand même du pétrole, non ?
Oui.
Je vous ai confié l'édito de cette émission. Donc on voudrait en avoir le cœur net, une bonne fois pour toutes. On paye notre essence, notre gasoil à des tarifs qu'on n'avait jamais vus jusque là, de mémoire.
Ah si, on les avait déjà vus.
Ouais. Ah bon ?
Alors 2,30 pour le diesel, c'est un peu haut, mais plus de 2 euros, ça c'est déjà présenté. Oui, oui.
Bon,
en 2022.
Alors, en tout cas, la question est très claire et simple. Hein. D'abord, où va l'argent ? Et ensuite, jusqu'où est-ce que ça va monter ? Et donc, qui en profite ?
Alors, je dirais, c'était pas inclus dans mon édito, mais qu'il y a eu une bonne nouvelle au milieu de l'après-midi. C'est qu'en fait, les Iraniens ont décidé de réouvrir le détroit d'Ormuz. Et la réaction sur le baril a été radicale, puisqu'en une heure, il est passé de 97 dollars à moins de 90 dollars. Donc, vous voyez l'effet psychologique, puisque il n'y a pas eu plus ou moins de pétrole en une heure. Et donc, on voit que tout ça et les réponses des marchés sont extrêmement psychologiques.
Ouais, les Alors c'est vrai que
cette hausse des prix des carburants est vécue comme un drame par les Français, hein, plombés à la fois dans leur pouvoir d'achat, mais aussi un certain nombre de secteurs économiques comme le transport routier, l'agriculture, la pêche et les services à domicile. Et donc face à cette situation, c'est le moins qu'on puisse dire, notre gouvernement navigue en eau trouble. Hein. Il a d'un côté pas les moyens d'un troisième quoi qu'il en coûte et parallèlement, il est dans la crainte journalière d'un retour en force d'un mouvement social type gilet jaune. Et sa situation est d'autant plus préoccupante qu'elle va dégrader un peu plus les comptes publics. Hein. La crise voit pointer à la fois la récession d'un côté et de l'autre le retour de l'inflation, avec, on peut déjà le dire, hein, un budget qui avait pourtant été voté au forceps et qui est le déficit aujourd'hui de 5% paraît déjà inatteignable compte tenu de la baisse de la croissance. Alors votre question, c'est effectivement qui en profite et comment peut-on essayer de baisser le prix des carburants tout en ne grevant pas les finances publiques, ce qui est quand même une équation complexe. Alors il y a d'abord deux premiers leviers, ce sont ceux qui finalement en bénéficient le plus, mais on n'a absolument aucun impact sur ces deux leviers, c'est d'un côté le prix du baril et de l'autre le prix des produits raffinés. Alors contrairement à ce qu'on croit, le prix des produits raffinés n'est absolument pas décidé en France, il est décidé sur un marché international qui en Europe se tient à Rotterdam et donc nous n'avons aucun impact sur le prix hors taxe, on va dire, du diesel et de l'essence. Il y a d'ailleurs un déficit...
Le gouvernement n'a aucun levier là-dessus.
Le gouvernement n'a absolument aucun levier là-dessus et quand d'ailleurs au cours des deux derniers jours, le gouvernement a dit on va essayer de voir parce qu'il y a des excès sur les marges de raffinage. Il n'y a absolument aucun impact sur les marges de raffinage. Et d'ailleurs, tout de suite, le gouvernement a dit on va regarder ça à l'échelle européenne parce qu'à l'échelle française, effectivement, mais même à l'échelle européenne, on n'a absolument aucun impact là-dessus. Et ceux qui, forcément, actuellement, s'en mettent entre guillemets plein les poches, ce sont ceux qui vendent du baril d'un côté et qui vendent sur les marchés de gros des produits raffinés. Alors, il y a un troisième levier dont on a beaucoup parlé, qui sont les marges de distribution. Alors là, par contre, c'est vraiment devenu franco-français. La marge de distribution, elle inclut le transport, on va dire, entre la raffinerie et la pompe à essence, le coût de fonctionnement de la station et ce qu'on appelle la marge nette du distributeur, donc c'est-à-dire le bénéfice du distributeur, et aussi inclus là-dedans, alors là, ça n'est pas du tout de la distribution, mais c'est inclus, ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, qui sont non pas une taxe, mais une contribution qui est prélevée et qui est redistribuée à l'État, qui va ensuite la distribuer pour financer la transition énergétique. Et donc, quand on regarde les marges de distribution, et là j'insiste, c'est que par rapport à l'avant-guerre, les marges de distribution ont en moyenne baissé. Elles sont inférieures aujourd'hui à ce qu'elles étaient en janvier et en février. Donc, c'est-à-dire que les distributeurs, on les accuse...
Vous parlez de l'avant-guerre d'Iran.
L'avant-guerre d'Iran, oui.
Pas de l'avant-guerre
Nous sommes d'accord. quand on dit que les distributeurs auraient profité de l'aubaine, c'est à la fois injuste et sans fondement. En revanche, il y a évidemment les taxes derrière, et comme on applique au prix hors taxe 20% de TVA, forcément, mécaniquement, L'État s'enrichit via l'ATA et donc les taxes se sont mécaniquement accrues. Et donc moi, ma proposition pour essayer de baisser le prix de l'essence...
Ah, la proposition de Philippe Charlez pour baisser le prix de
l'essence. C'est d'abord de suspendre temporairement les certificats d'économie d'énergie, qui ne sont pas une taxe, donc c'est-à-dire que différer, on va dire, des achats de véhicules électriques dont on a parlé ou des travaux de rénovation thermique dans l'habitat, on va dire que pour l'instant, vu l'urgence, ça peut attendre, et ça représente quand même 16 centimes au litre. Et puis à ça, on pourrait rendre aussi aux consommateurs le surplus de taxes encaissées par l'État. Et donc, quand on fait le calcul des deux, ça ferait baisser le SP95 de 20 centimes et le diesel de 24 centimes. C'est loin d'être négligeable.
Bah oui.
Et d'ailleurs, c'est une proposition qui a été reprise, j'ai vu. Moi, je les avais faites il y a un mois en écrivant un article dans Le Point là-dessus et qui s'est repris par différentes personnalités politiques. Notamment, je l'ai entendu hier de la part du député Guillaume Kasparian. Mmh. Il y a aussi l'essayiste Alexandre Jardin et puis Michel-Édouard Leclerc qui ont proposé ce levier. Je conclurai en disant qu'on dit que nos voisins européens ont tous réduit le prix des carburants quand ils sont moins endettés. C'est vrai. Mais je dirais que tous, non. Et j'ai hier une expérience, hier soir une expérience intéressante, je dînais avec un ami suisse. Alors pour vous dire, donc la Suisse, elle a une dette inférieure à 30% du PIB, ça fait rêver, et n'a connu aucune année de déficit au cours des 10 dernières années. Et pourtant, les Suisses payent leur essence au prix fort, sans aucune subvention de l'État, et surtout sans jamais se plaindre. Donc je trouve que c'est un exemple à suivre.
Bah, oui, absolument. Oui, enfin certes, mais l'État en prend autant en Suisse.
Et l'État en prend autant. Le litre d'essence est largement supérieur à 2 francs suisses le litre. Or, le franc suisse aujourd'hui est supérieur en taux de change à l'euro.
Ouais, c'est vrai.
Alors, les salaires ne sont pas pareils en Suisse.
C'est ce que j'allais dire. Ils ont quand même un niveau de vie qui est très supérieur au nôtre. Hein.
Voilà, un smicard, c'est 4000 euros à peu près.
Voilà, pour un pays qui n'a que des montagnes comme richesse.
Ça, c'est pas vrai. Il y a du chocolat aussi.
Non, mais au départ. Mais après, depuis, il y a, évidemment.
Non, la part industrielle de la Suisse dans le PIB est très importante.
Que 20%.
Combien ?
20%.
C'est ça, oui.
Ouais.
Oui, donc c'est le double de nous.
C'est
compte.
Incroyable. C'est incroyable.
Et forcément, l'État ne compte pas être touché à ces taxes.
Ou ça en Suisse ?
Non, ici en France.
Ah ben en France, il n'a plus les moyens.
Mais le problème.
Cher Philippe,
une question, oui, vous parliez de nos voisins, parce que bon,
alors,
la Suisse
italien,
est un cas particulier. Voilà.
Italien, allemand et
question
espagnol.
Question de Damien Chalamel.
Et espagnol ont effectivement baissé les prix du carburant. D'un ordre de grandeur à celui que je vous donne, donc entre 20 et 25 centimes par litre, sachant que effectivement leur endettement est moindre, ou du moins leur déficit. L'Italie a un endettement qui est supérieur à la France, mais un déficit qui est revenu en dessous de 3%, alors que je disais que nous, on ne pourra pas, compte tenu de la situation qui n'était pas prévue, tenir les 5%.
Mais rien n'empêcherait le gouvernement de privilégier cette baisse soit de la TVA ou des droits, à condition, bien évidemment, de réduire à due concurrence et de geler un certain nombre de dépenses.
Alors, je ne l'ai pas dit parce que je voulais raccourcir un peu l'édito. Il y a eu un certain nombre de propositions de l'opposition pour essayer de... Alors, il y en a qui font marcher le déconomètre à plein tube. Donc, je dirais, il y a LFI qui propose un blocage des prix associé à des réquisitions. Donc là, ça veut dire que c'est une pénurie assurée. Alors, il y a encore mieux. Hein. C'est le Parti communiste qui propose de nationaliser Total Energy. Donc là, il faut trouver quand même 200 milliards d'euros hein, pour le faire. Je ne sais pas où il va les chercher. Alors, il avait dit, Roustel, mais on ne va pas payer, on prend.
Il est très malin.
Voilà.
Il est très malin.
Et puis, on a effectivement la proposition du Rassemblement National de la baisse à 5,5%. Ça coûterait quand même 13 milliards d'euros. Et donc, ça ne pourrait s'inscrire que dans une stratégie globale d'économie que la situation politique aujourd'hui ne peut malheureusement pas permettre. Puisque les économies que propose le Rassemblement National, notamment sur les côtés Europe, immigration, etc., ne seront jamais votées dans le cadre de la majorité politique actuelle.
Ouais, ça c'est certain.
Oui. Rien n'empêcherait, dernière remarque malgré tout, rien n'empêcherait, ça s'est déjà vu, ça s'est déjà fait, de geler un certain nombre de dépenses pourtant inscrites au budget et de corrélativement de baisser la TVA ou une partie de la taxe des la fiscalité non, mais,
sur, oui, mais avec sur, des voilà. économies en face.
On
mais
voit très
ça sera
bien.
Un autre débat.
Mais c'est une volonté gouvernementale.
Oui, mais on voit très bien que le gouvernement est piégé dans le socialisme aujourd'hui. Donc,
Philippe Charnaise, une question, on est à la veille des vacances. Est-ce qu'on a raison de craindre, est-ce qu'on peut craindre une pénurie de carburant aujourd'hui, là, pour les départs en vacances?
Alors, dans l'immédiat, non. Tout simplement parce que la France approvisionne assez peu au Moyen-Orient. La majorité de notre pétrole vient d'Afrique, il y en a une petite partie des États-Unis et d'Amérique du Sud, parce que les routes sont plus courtes. Hein. Du Moyen-Orient, quand on passe le golfe Persique, on va plus facilement vers l'extrême-Orient que vers l'Europe, puisqu'il faut passer le canal de Suez, où vous avez un droit de passage qui est quand même $1 à 2 millions qui coûte cher. Cela étant, à long terme, si ça durait, oui. C'est-à-dire que le marché du pétrole est un marché mondial. Si vous donnez plus cher à une cargaison, elle peut très bien partir d'Afrique et aller vers l'extrême-Orient et priver l'Europe d'un certain approvisionnement. Mais disons qu'à court terme, je ne vois pas de pénurie.
On peut partir en vacances tranquillement. Hein. C'est la conclusion. Allez, nous allons parler tout à l'heure de cette enquête de Boulevard Voltaire, une femme politique qui est très dévouée à la cause du financier Georges Soros. C'est Nathalie Loiseau, formidable enquête de Samuel Martin, qui sera avec nous tout à l'heure. Mais d'abord, après la commission d'enquête, l'audiovisuel public fera-t-il sa révolution ?
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Philippe Charlès, Damien Chalamel et Yves-Marie Sevilla, nous sommes avec Anne Sicard. Bonjour Anne Sicard.
Bonsoir.
Vous êtes députée Identité Liberté, la première circonscription du Val d'Oise. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Vous êtes membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation et membre de la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public, c'est la fameuse commission, c'est son nom complet, dont on a beaucoup entendu parler et qui passionne les Français. Vous avez donc participé, Anne Sicard, à tous les débats. Vous avez aussi posé beaucoup de questions très remarquées lors de cette commission d'enquête. Cette commission qui est inédite et particulièrement explosive et qui a été menée avec pugnacité, comme on le sait, 4 mois durant par le rapporteur Charles Alloncle, sous la présidence du député Horizon Jérémy Patrier-Lettus. Nous sommes à la veille de la publication du rapport, qui est très attendu de Charles Alloncle, très attendu, mais incertain. Je voulais qu'on écoute Charles Alloncle, justement, c'était le 8 avril dernier sur RMC.
Pour que les gens je voudrais simplement dire, s'il n'est pas voté ce rapport, exactement, il termine aux oubliettes, voilà, qu'est-ce qu'il va devenir ?
Ce n'est pas que le rapport qui ne sera pas publié, c'est l'intégralité des vidéos des auditions, des comptes rendus des auditions qui disparaîtront du jour au lendemain, notamment du site de l'Assemblée nationale, et qu'on ne pourra plus exploiter. Donc il y a un enjeu qui est immense, qui est énorme en ce moment, qui d'ailleurs est à la hauteur et à la proportion du déchaînement médiatique qui est en train de se produire en ce moment contre moi et contre globalement les travaux qu'on a fournis sérieusement depuis 6 mois, puisque si le rapport n'est pas publié, on ne pourra plus diffuser et retrouver les vidéos de ces 70 auditions, on ne pourra plus retrouver les comptes rendus de ces 70 auditions, on ne pourra même plus relayer des révélations et des propos qui ont été tenus dans le cadre de ces auditions sous peine de poursuite pénale. Donc vous voyez, je voudrais simplement vous interpeller sur le fait que l'enjeu de jeter le discrédit dans ces derniers jours, la ficelle est quand même très grosse. Ils vont tous se déchaîner pour essayer d'obtenir un vote défavorable. Et moi, je ne veux pas répondre aux polémiques. Je ne veux pas répondre aux attaques parfois très basses. Je veux qu'on se concentre sur le fond. Et je suis là pour répondre notamment à cette question. Quelles sont les révélations? Je sais que Patrick Cohen l'a posé. Je voudrais vraiment qu'on parle de ça et pas de la forme et pas des polémiques.
Alors, on en aura le cœur net le 27 avril. Hein. Le rapport de Charles Alloncle sera soumis au vote de l'ensemble des membres de la commission qui se prononceront sur la publication ou non de ce rapport, dont vous, Anne Sicard. Donc, vous voterez pour la publication ou non. J'ai une petite idée sur le sens de votre vote, mais et pour l'interdire, hein, il faudra qu'une majorité des 31 députés qui composent la commission décident de voter contre. Alors, première question, Anne Sicard. Est-ce que ce rapport, on va commencer par là, est-ce qu'on a une chance de le voir?
Oui, on a une chance. On a une chance parce que, de toute façon, même s'il n'était pas publié, ce serait une erreur, parce que ça indiquerait, en fait, ça enverrait un très mauvais message aux Français. Qu'est-ce qu'on veut leur cacher?
Ouais.
Hein? Alors, c'est le travail de Charles Alloncle a été absolument exceptionnel. Il l'a fait avec un sérieux, une minutie. Et contrairement à ce qui a été dit, beaucoup sans aucune passion politique, hein, il a fait vraiment un excellent travail. Et il a levé un certain nombre de lièvres. Il faut savoir que la commission a été cette commission d'enquête a été une des commissions les plus suivies de toutes les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale. Ce qui montre quand même que les Français s'y intéressaient.
Ouais.
Les Français sont friands de savoir à quoi servent les 4 milliards d'euros donnés à l'audiovisuel public. Mmh.
Vous dites ça sur la base des audiences de la chaîne LCPAN.
Tout à fait. Et puis, voilà, exactement, des auditions qu'on pouvait suivre en direct. En fait, hein, donc c'était et même les auditions qui n'étaient pas forcément de personnes très connues. Hein, c'est pour ça que c'est quelque chose qui a intéressé les Français. Donc, quel message vont-ils envoyer si la publication de ce rapport est empêché. Ce serait quelque chose de très grave. Serait un déni de démocratie. Et encore une fois, comme l'a dit Charles Laloncle, ça veut dire qu'on n'aura plus accès à aucune des auditions. Enfin, tout sera archivé par l'Assemblée nationale sans pouvoir être utilisé. Et ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas de déclenchement d'enquête.
Ça serait terrible. Et alors justement, j'ai lu les propos de quelques élus, hein, notamment une députée socialiste, si je ne m'abuse, qui s'appelle Aïda Adizadeh, et qui a dit « si on le censure, ce sera pire ». Hein, et elle a dit ça sur LCP, la chaîne parlementaire, il y a quelques semaines, et elle recherchait le moins pire des pièges, ce qui est quand même assez drôle comme façon de voir. Donc ça montre que, comme vous le dites, comme vous venez de nous l'expliquer, c'est pas si facile pour la gauche de dire on n'a qu'à siffler l'enterrement du rapport.
Exactement,
terminé,
exactement, parce que de toute façon, le travail, même, encore une fois, si ce rapport n'était pas publié, le travail a déjà des résultats. Il y a déjà une enquête qui a été ouverte à propos des frais d'hôtel de Delphine Ernotte. Il y a, pas si vous l'avez remarqué, mais un peu plus de diversité sur les politiques sur les plateaux. France Télévisions a déjà réduit la voile aussi. Ils ont été obligés, on leur a imposé des économies. Et puis, les Français savent désormais. Voilà, comme les auditions étaient publiques, été diffusé en direct, et ben les Français savent. Donc enterrer le rapport serait pire que tout. Je pense que les députés, les 31 députés qui font partie de cette commission vont le juger eux-mêmes. Parce qu'il faut savoir quand même que cette commission, c'est un travail de 6 mois, c'est plus de 70 auditions, c'est plus presque 300 personnes auditionnées, c'est un travail énorme qu'a fourni Charles Laloncle.
Ouais, il était entouré d'ailleurs, il avait une équipe, j'imagine. Comment il s'est
il s'est organisé comme un député s'organise pour faire correctement son travail. Mais c'est quelqu'un qui a une énorme capacité de travail, qui est vraiment très sérieux. Et la commission d'enquête vraiment reposée sur lui, évidemment parce qu'il est rapporteur, mais parce que aussi il est extrêmement sérieux, consciencieux dans son travail. Ouais. Et ce qui est quand même regrettable...
Explosé, hein, c'est devenu une star.
Oui, c'est devenu une star, mais il ne l'a pas voulu.
Ouais.
Vraiment, Charles Laloncle, s'il est devenu une star, c'est parce que la commission d'enquête, le sujet de la commission d'enquête intéressait les Français. C'est parce qu'il a révélé un certain nombre de scandales qui intéressait les Français. C'est pour ça qu'il est devenu une star. Mais je pense que vraiment, enfin je ne sais pas, j'en suis sûre, il n'a jamais cherché la lumière à ce point.
On va continuer à en parler avec vous, Anne Sicard. Vous êtes députée IDL, Identité Liberté, et vous étiez présente à cette commission d'enquête. Alors, question, puis après ça, je passerai la parole à nos sociétaires. Il n'a que 2 semaines pour rédiger son rapport. Il n'a eu que 2 semaines.
Même
il y
pas.
En a déjà une qui est
même
écoulée.
Pas.
Hein, à peu
même
près.
Pas, il a eu 10 jours.
Il a eu 10 jours.
Alors, il a eu 10 jours pour rédiger son rapport.
Ouais.
Or, normalement, c'est un mois et demi.
Ah, c'est fou.
Donc on lui met vraiment des bâtons dans les roues. Enfin,
pourquoi est-ce qu'il n'a eu que 10 jours?
Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est le président de la commission. Mais je ne veux pas dire de bêtises. Je n'en suis pas sûr.
Notre ami Patrier Létus.
Ouais. Sur ce petit temps, la commission a perdu un certain nombre de jours dans ses travaux. C'est ce qui a aussi été pas mal dénoncé, me semble-t-il, j'en suis certain, par Charles Laloncle. Au début, on l'a un petit peu oublié, mais au début des travaux, L'extrême gauche, la France insoumise, a tenté de faire suspendre l'audition, et vous avez eu une semaine à 15 jours de pause. Et puis il y a eu cette fameuse suspension de 15 jours qui a été interprétée par certains comme de la censure. Le président de la commission s'est défendu comme étant simplement une volonté de réorganiser votre façon de suivre les travaux de la commission. Donc c'est ce mois qui semble-t-il
qui a manqué.
Perdu.
Mais on aurait pu donner un peu plus de temps, parce que c'est là où on a vu effectivement que la gauche, et l'extrême gauche particulièrement, a essayé de freiner les travaux, a mis en permanence en question les questions, le travail de Charles Laloncle, a jeté le discrédit sur la commission d'enquête qui a été pourtant menée de manière, encore une fois, particulièrement sérieuse. Parce que Charles Laloncle, il a révélé des scandales, non seulement les scandales financiers avec les conflits d'intérêts, les fameux conflits d'intérêts entre l'audiovisuel public et les sociétés de production privées. Il a révélé également que certains dirigeants cadres de France Télévisions faisaient des allers-retours ou des allées vers les sociétés de production privées après avoir touché des chèques de primes de licenciement énormes, plusieurs centaines. Ouais. Voilà, exactement. Il a vraiment révélé plusieurs abus divers sur l'utilisation de l'argent public. Et c'est ça, certainement, qui a dérangé.
Bien sûr. Anne-Sicard, il n'a que donc très peu de temps pour rédiger ce rapport. Comment est-ce qu'il procède ? Est-ce que vous savez comment est-ce qu'il procède ? Est-ce que vous l'aidez, vous, les parlementaires qui font partie
Alors,
de la commission ?
Alors, je pourrais tirer la couverture à moi dire que je l'aide. Non, je ne l'aide pas. Bon. J'ai essayé de l'aider en étant le plus présente possible pendant les auditions. J'ai essayé de l'aider par... rien que par notre présidente et par toutes les questions que j'ai posées dans les différentes auditions, en particulier Ernotte, Sybille Veil, Cohen, Aski, etc.
C'est ça, Pigas, on en entendra quelques-unes de vos questions, on va revenir sur toutes ces auditions.
J'avais une question, madame la députée. Donc vous dites effectivement, et ça se comprend, que la gauche et l'extrême gauche est évidemment vent debout contre cette commission et surtout ce qu'elle a pu en sortir. Quelle a été la position par contre de la droite et du centre là-dessus ? Puisque je crois que le président de la commission était Horizon, crois, c'est ça ?
Oui.
Est-ce que lui était plutôt favorable ou plutôt défavorable et aussi mis des bâtons dans les roues aux députés à l'oncle ?
Alors, il a fait perdre beaucoup a fait perdre beaucoup de temps aux députés à Londres puisqu'il reformulait systématiquement ses questions. Alors moi, j'ai trouvé que les premières auditions, ça allait à peu près, mais que par la suite, dans la mesure où il reformulait les questions, en fait, on perdait à chaque fois un temps infini dans le temps de d'audition. C'était très pénible. Et
pourquoi reformulait-il les questions ?
Écoutez...
On ne sait pas.
Bon. On imagine.
Allez, on va parler de la suite. Hein. On a entendu d'une proposition de loi sur l'audiovisuel public qui pourrait être inscrite dans l'ordre du jour de la niche parlementaire des députés ciottistes le 25 juin prochain. On va demander à Anne Sicard ce qu'elle en pense.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Philippe Charles, Damien Chalamel et Yves-Marie Sevilla. Quelle sera la suite, Anne Sicard, de ce rapport parlementaire ? Est-ce que vous exigerez, si jamais le RN arrive au pouvoir, par exemple, une refonte ?
Qu'il soit publié ?
Alors qu'il soit publié sans doute, mais que le service public soit refondu, secoué, repassé dans quel sens ?
On pourrait parler de privatisation.
Sur quoi ça pourrait déboucher ?
On pourrait parler de privatisation, mais il faut absolument une refonte entière du système. Une refonte entière du système pour éviter que ce système de l'audiovisuel public coûte 4 milliards d'euros aux contribuables français. Ça, c'est déjà l'essentiel. Après, il y a d'autres...
Mais comment est-ce qu'on fait ? Vous l'ouvririez à la publicité, par exemple ?
Voilà, c'est une des solutions.
Il y en a déjà, mais il n'y en a pas beaucoup.
Mais ça serait une des solutions. Encore une fois, il faut faire des économies. Je crois qu'on n'a plus d'argent en France.
Mais privatisation ou pas ?
Alors oui, on peut parler de privatisation. Alors, je sais que, voilà, oui, chez Identité Liberté, on est plutôt pour une privatisation de l'audiovisuel public, enfin, de l'audiovisuel.
Privatisation, pardonnez-moi, mais que Charles Lalonque n'a...
Lui, voilà, n'est pas pour. Et c'est ce que j'allais dire, ce qui n'est pas... Exactement, oui, c'est, alors qu'on l'a accusé du contraire, d'ailleurs, encore une fois. Hein, c'est, mais effectivement...
Ouais.
Charles Lalonque n'était pas particulièrement pour la privatisation de l'audiovisuel.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs solutions. On peut se dire qu'on passe les comptes à la paille de fer, qu'on revoit la réglementation, on peut lui faire diminuer la voilure. J'ai vu que, notamment, la BBC était en train, là, en ce moment, de licencier 2000 personnes, ce qui est quand même important, et ce qui va évidemment diminuer les frais de la BBC. Mais je crois que c'est beaucoup plus gros que France Télévisions encore, la BBC. Mais enfin bon, il s'adresse au monde entier.
Oui, parce que France Télévisions, c'est 9000...
C'est ça, 8 ou 9000 salariés. Ouais, c'est ça. Je crois que la BBC, c'est plus. Mais enfin, bon, 2000 salariés, c'est quand même une grosse coupe. Hein. Philippe Charlez.
Oui, justement, sur ce sujet de la privatisation et des recettes publicitaires, j'ai entendu dire que l'enveloppe des recettes publicitaires était pratiquement aujourd'hui une enveloppe constante et que finalement, si on privatisait France Télévisions, que les recettes publicitaires allaient à part égale se partager entre plus d'acteurs et que donc ça voudrait dire de toute façon qu'un certain nombre de chaînes devraient fermer, que ce soit des chaînes publiques privatisées ou des chaînes privées existant à l'heure actuelle, que les recettes publicitaires globales ne suffiraient pas à maintenir en vie l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel actuel.
L'audiovisuel public.
Et privé, puisque ça se partagera à ce moment-là entre donc CNews ou BFM pourraient perdre des recettes publicitaires qui seraient pompées par France TV.
Oui, c'est un frein qui est d'ailleurs évoqué, parce que j'ai suivi un peu l'audiovisuel dans d'autres vies, souvent évoqué par les chaînes privées qui sont très favorables, mais je crois qu'elles vous l'ont dit pendant la commission d'enquête, les chaînes privées et les groupes
défavorables
privés,
à la privatisation.
TF1 M6 sont très défavorables à la privatisation parce que évidemment ça mord sur leur gâteau publicitaire.
Bon, enfin, en tout cas, on a plein d'autres choses en fait qu'il faut aussi revoir et supprimer. On peut parler du CNC aussi. Hein, le CNC avec qui en fait donne un certain nombre d'argent. À des organismes qui font pas de cinéma.
C'est le Centre national du cinéma.
Oui, c'est ça, le Centre national du cinéma, et qui donne des subventions en fait à des influenceurs antifa, par exemple, et il faudrait supprimer toute subvention en fait à ce qui n'est pas du cinéma. J'ai mon collègue Mathias Renaud qui a déposé un amendement dans ce sens.
Sur le CNC. C'est infini. Hein,
oui, c'est infini. On parle du Pass Culture aussi. Oui. On peut parler de plein de choses.
Il y a 15 chaînes. Je crois que le CNC ne fait pas partie de l'audiovisuel public, me semble-t-il. Je ne crois pas.
Parler de dépenses.
Ça fait partie.
C'est global, en fait.
C'est ça.
Les économies que nous pouvons faire.
Je crois que les
4
milliards, c'est la moitié du budget du ministère de la Culture.
Voilà, 50%. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Charles Lalonque, ce qu'il a dénoncé en disant que cet argent qu'on pourrait mettre en fait dans la rénovation des églises et de vieux théâtres, etc.
Absolument. Yves-Marie Sévillage, je précise que vous avez suivi pour Boulevard Voltaire, j'allais dire l'ensemble, peut-être pas tous les débats, mais en tout cas...
Il y avait 70 auditions.
Une bonne cinquantaine. Hein.
Voilà.
Donc il n'y en a pas beaucoup qui manquent à ma raquette. Oui, donc du coup, je merci Marc de le souligner. Mais une remarque, effectivement... c'est que Charles Lalonque est dans un temps politique, ça c'est mon analyse, où il joue la pression politique pour faire adopter ce rapport qui lui apportera évidemment une assise, une notabilité parlementaire, oserais-je dire. Et de toute façon, il tirera aussi politiquement les marrons du feu si ce rapport était refusé, ça a été évoqué, puisque de toute façon, lumière sera faite sur le gouvernement, le bloc central et ceux qui ne voudront pas que des investigations et des changements véritables soient faits dans l'audiovisuel public. Et enfin, il pourra utiliser de toute manière ce travail dans les programmes politiques de son parti, l'UDR, de son allié, le Rassemblement National. Donc les fruits...
Et IDL.
Et IDL, bien évidemment, et l'ensemble des alliés des partis proches de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Donc ce travail, il aura, quoi qu'il en soit, des fruits, très vraisemblablement... On a du mal à imaginer que le rapport ne soit pas voté, même si on a raison de pousser politiquement à ce qu'il le soit. Et parce que la question a infusé, le grand succès, donc c'était ma question, Anne Sicard, dans quelle mesure vous avez vu que la popularité de votre travail, de celui de la commission dans votre circonscription,
oui, est-ce que vous...
dans quelle mesure les Français vous en parlaient directement?
Oui, alors... ils m'en parlaient, alors c'était pas leur seule préoccupation, mais effectivement on m'en parlait. Effectivement, on m'en parlait, parce qu'encore une fois, les Français sont soucieux de savoir où passe leur argent. Et puis, on leur demande de serrer la ceinture en permanence. On leur demande, on est en crise économique, on leur demande de serrer la ceinture. En fait, ils ont été informés des salaires énormes de France Télévisions, encore une fois, de la gabegie de l'utilisation de leurs impôts. Donc, évidemment, on m'en parlait.
Ils sont des écailles qui leur sont
exactement
dans les yeux. Alors... Oui, Damien Chalamel.
Un commentaire et une question. Bon, d'ores et déjà, enfin, pour ceux qui ont un peu suivi ce qui était mon cas, ces travaux, effectivement, donc la gabegie, bon, le manque de neutralité, ça, on le savait tous, les conflits d'intérêts majeurs entre sociétés de production et cadres de France Télévisions. Mais en revanche, j'étais assez frustré parce que j'ai l'impression qu'il y a un point qui n'a pas été peut-être suffisamment abordé, me semble-t-il. Mais détrompez-moi si je dis des bêtises, c'est la réflexion sur la mission de France Télévisions, sur les missions de l'audiovisuel, même si bien évidemment c'est en filigrane, hein, mais j'ai pas eu l'impression que... On entendait effectivement Madame Ernotte est dans l'autosatisfaction la plus totale sur le fait qu'elle accomplissait merveilleusement sa mission, mais j'ai pas eu le sentiment que la commission est vraiment poussé, par exemple, les dirigeants, les cadres de l'audiovisuel public dans leur retranchement à la question de savoir s'ils accomplissent réellement une mission de service public. Moi, à titre personnel, je suis pour la privatisation. Hein.
Mais ils sont absolument certains, en fait, d'accomplir leur mission. Ils ont été tout étonnés. Toute cette casse médiatique, en fait, les premiers temps de l'audition, ils ont eu une forme de stupeur.
Oui,
ils étaient étonnés parce qu'on leur posait des questions. Là, ils étaient étonnés parce qu'on leur demandait de rendre des comptes. Donc, ils étaient persuadés. D'ailleurs, j'ai interpellé Delphine Ernotte pendant une des auditions parce qu'elle avait déclaré que CNews c'était pas de l'information, mais que c'était de l'opinion. Donc je l'ai questionné en particulier sur le traitement de l'information des manifestations gilets jaunes, avec un panneau, vous savez, de Macron dégage qui avait été effacé. Je l'ai questionné sur, évidemment, l'affaire Crépol, hein, avec l'édito l'affaire Crépol.
De ce meurtre.
Pour lui dire, mais alors attendez, c'est de l'information ou de l'opinion? Elle a été... vous voulez qu'elle me réponde, elle n'est pas allée dans mon sens. Mais ils se sentent investis. Personne ne leur a jamais demandé de compte. Ouais. Ça fait des décennies que c'est encore une fois la gabegie, et en plus des décennies de propagande, en fait. Hein, ils font ce qu'ils veulent. Donc ils étaient, encore une fois, extrêmement étonnés que la représentation nationale leur demande des comptes.
Extraordinaire.
À la limite,
c'est le corps du bien dans toute sa splendeur. Oui, Philippe Charlaise.
Ce que je veux dire, à la limite, un média peut très bien avoir une opinion. CNews n'est pas neutre en opinion, mais il y a une grosse différence, c'est que CNews est privé et n'est pas public.
Exactement.
À partir du moment où on est public, on doit être neutre. Si on est privé, on a le droit d'avoir, chacun a le droit d'avoir ses opinions. Ça me gêne absolument.
On ne remet pas en question la ligne éditoriale quand c'est privé, en fait, mais il faut quand même une forme de pluralisme.
Alors, je voulais qu'on se penche avec vous, Anne Sicard, sur le climat, justement. On est un peu dedans, sur le climat de cette commission d'enquête, parce que, de fait, c'était quand même assez étonnant et très différent du climat des autres commissions qu'on a pu voir. Alors, Alloncle expliquait cela, il disait que ça a été... il expliquait pourquoi, les raisons pour lesquelles c'était aussi dur. C'était sur RMC le 12 avril, hein, on l'écoute.
Je n'avais rien à gagner à tout ça. Quand on regarde de près les 4 milliards d'euros d'impôts des Français qui sont consacrés à l'audiovisuel public, vous pouvez être sûr que vous allez vous mettre toutes les chaînes publiques à dos. Ça a été le cas depuis le premier jour. Vous allez vous mettre à dos aussi tous les actionnaires et fondateurs de sociétés de production qui prennent 1 milliard d'euros d'argent public chaque année par France Télévisions. C'est le cas de M. Niel, de M. Pigas, qui, lors de leur audition, se sont déchaînés par des outrances verbales et une forme de violence aussi dans le cadre de cette audition, alors qu'on a auditionné nombre de patrons d'entreprises qui se sont parfaitement tenus et ont gardé leur sang-froid. Je n'avais rien à gagner. Je pense qu'aujourd'hui, vous le voyez, dans cette dernière ligne droite, juste avant le vote du rapport, vous pouvez voir une bonne partie de la presse publique subventionnée et aux ordres de M. Niel et M. Pigas se déchaîner contre moi. Donc je savais que je n'avais rien à gagner, mais je pense que c'est salutaire. C'était la première fois que l'Assemblée nationale ouvrait le capot sur l'utilisation de ces 4 milliards d'euros d'argent public. Il faudra le faire pour bien d'autres politiques publiques, pour bien d'autres dépenses, pour bien d'autres institutions, hauts comités, commissariats, parce qu'on est en train de se déclasser, on est en train de perdre en souveraineté. Les intérêts de la dette en France nous déclassent. Ça va nous coûter dans quelques mois, quelques années, 100 milliards d'euros par an. Donc si on ne fait pas une sorte d'électrochoc pour retrouver de l'efficacité dans la dépense publique, si on ne dit pas aux Français « demain, vous allez payer moins, mais vos services publics vont se porter mieux parce qu'on va arrêter avec la bureaucratie, on va arrêter avec les conflits d'intérêts, on va arrêter avec les dépenses inutiles », on n'arrivera pas à sauver notre pays. Donc j'assume de prendre ce risque-là. J'assume que matin, midi et soir, on me casse, on essaye de me discréditer parce que je m'attaque aussi à des gens qui possèdent des médias très puissants et qui feront tout aussi pour me donner une image qui discréditera à la fin le rapport. Mais je pense honnêtement que c'est de salubrité publique.
Voilà, Charles Alloncle, hein, donc, qui explique à quel point c'est difficile et à quel point il faut s'engager et être prêt à prendre des coups, hein, pour faire ce type de travail. Est-ce que vous avez été surprise, Juan Sicard, avec même un petit peu de recul maintenant, par justement cette dureté des débats, cette âpreté? Est-ce que vous attendiez à ça? Et comment est-ce que c'est évolué? Est-ce que c'était très dur dès le départ? Est-ce que ça l'est devenu au fur et à mesure du temps? Moi, j'étais frappé quand même par le ton de Niel et Pigas sur la fin, par exemple. Niel qui était qui avait l'air déchaîné, je ne sais pas ce qu'il avait bu ce matin-là, mais pas que du café, apparemment. Hein,
ouais. Mais oui, tout à l'heure, les débats ont été tendus, on va dire, avec l'attitude de l'extrême gauche et de la gauche. Mais les premières personnes auditionnées vraiment avait une attitude tout à fait respectueuse à l'égard de la représentation nationale. Vraiment, donc il n'y avait pas de tendu réellement avec l'audition de Nagui, qui ricanait, en fait. Voilà, on voyait qu'il n'y avait aucun respect de la représentation nationale, et en particulier de Charles Alloncle. Et effectivement... l'apothéose, ça a été l'audition de Pigas et de Niel. Alors, il faut savoir, c'est que Niel a refusé de venir à la première convocation.
Absolument.
Hein, et le bureau, et les députés de gauche, d'extrême gauche, et même d'ailleurs les centristes, voulaient que l'audition se tienne quand même. Et c'est Charles Alloncle qui a tenu bon et qui a dit « je veux auditionner les deux en même temps ». Je ne veux pas que l'un soit au courant des questions avant l'autre. Enfin, ce n'est pas possible. Donc, d'ailleurs, nous avons fait, on a fait vraiment corps, là, tous ensemble, les députés RN autour de Charles pour le soutenir dans son refus de tenir l'audition sans Niel. Mais Niel a été, mais c'était, mais un mépris.
Niel, le patron de Iliad Free, qui a aussi beaucoup de médias.
C'était vraiment comme Pigas, mais Niel en particulier, un mépris. Pour le, d'ailleurs, ce mépris de la représentation nationale traduit parfaitement le mépris d'ailleurs du peuple en général. C'est encore une fois une caste médiatique qui vit dans un autre monde et qui en fait milite pour des idées de gauche dont ils ne subissent absolument pas les conséquences. C'est pas eux qui vivent en banlieue, c'est toujours la même chose. Hein, ils sont
surtout, Vraiment, si je ne m'abuse, Monsieur Niel est marié avec Mademoiselle Arnaud.
Tout à fait.
Qui est la fille de Bernard Arnaud.
Tout à fait. Ouais, tout à fait.
Les discussions du dimanche doivent être compliquées.
Oui, ouais, enfin bon, ça n'explique pas son attitude. Damien Chalamel.
Non, mais pour abonder dans mon propos, c'est vraiment ce qu'on peut qualifier d'arrogance plutocratique. Hein, c'est vraiment l'arrogance de l'argent qui rend ces personnes absolument insupportables. D'une prétention, d'une morgue.
Mais pas seulement, parce qu'il y a aussi une arrogance des idées. C'est le camp du bien.
C'est le camp du bien.
C'est le camp du bien, mais c'est aussi, je veux dire, le par exemple, la prétention à la connaissance juridique dont a voulu faire preuve Mathieu Pigas, qui était assez pathétique, mais surtout, c'était limite insultant envers le rapporteur.
C'est un avocat qui le dit.
Quand vous avez vous-même repris. Monsieur Pigas sur notamment sa prétention à faire infuser ses idées à travers ses médias, j'ai pas. Et vous a-t-il répondu?
Oui, il m'a dit qu'il l'assumait.
C'est ça.
Il l'assume, en fait. Le problème, c'est qu'il l'assume pas avec son argent. Oui. Il l'assume avec l'argent public.
Alors, ce à quoi vous répondrait que l'argent public vient abonder Media One, qui n'est qu'une société de production.
Bien sûr, mais ils ont beaucoup argumenté là-dessus, mais ça n'empêche pas qu'ils gagnent leur vie avec l'argent public, parce que on les paye avec. Donc, il y a pas de.
Évident.
Mais c'est ce que je voudrais dire, c'est qu'on a reçu un autre grand patron.
C'était Vincent Bolloré.
Et on a eu affaire à un homme, bon, je ne connaissais absolument pas, mais vis-à-vis. Des députés, même d'ailleurs les députés d'extrême gauche ont essayé de le titiller, enfin avec toujours les mêmes arguments, il a été vraiment d'une courtoisie. Mmh. Il n'a fait aucune attaque ad hominem. Vraiment, il n'a pas voulu. Mais moi, je lui ai posé une question un petit peu sur AirNote, il n'a pas voulu répondre.
Mmh. Et, il a été magistral.
On a eu la différence. C'est tout. Hein. C'est deux mondes.
C'est vrai, c'est très intéressant ce que vous dites. On aurait dû mettre dos à dos la prestation de Niel
et
celle de Bolloré.
Exactement.
Hein. L'humour d'un côté, l'énervement, la méchanceté de l'autre.
Exactement.
L'arrogance. Il y a aussi une différence générationnelle. Hein. Mmh. Et puis d'éducation.
Générationnelle, il y a quoi? Il y a une grosse quinzaine. Oui, c'est ça. Oui, il y a quand même une génération. Oui, t'as raison. Mmh.
Qui a été le plus violent, le plus désagréable, vous qui avez
C'est Niel.
Pas mal.
Franchement, c'est Niel.
C'est Niel.
Bon. Alors Nagui était désagréable aussi, mais il ricanait. Mmh. Ouais. Oui, c'était un autre mépris.
Ouais.
C'est-à-dire, c'était vraiment le mépris et le détachement de quelqu'un qui se dit que je ne crains rien.
Mmh. Si on fait un tiercé gagnant des pénibles,
on met.
C'est pas facile à faire.
Patrick Cohen et Thomas Legrand étaient particulièrement vifs aussi.
Oui, mais c'était pas au niveau
C'était pas au niveau, mais puis ça pouvait s'expliquer, parce qu'après chacun défend son terrain, mais forcément ils ont été extrêmement mis en cause. Ouais. Et donc cette commission était aussi un moyen pour eux de prendre la parole et de se défendre.
Le fait est que c'est fait pour ça aussi.
Ça a été extrêmement, extrêmement tendu, parce que forcément, ils étaient...
Vous avez auditionné Léa Salamé aussi, je crois.
Oui.
Philippe Charlez. Ouais.
Et là, ça s'est plutôt bien passé.
Oui, c'était pas la plus agréable, mais oui, ça s'est plutôt... Enfin, en tout cas, il y avait quand même, encore une fois, une tenue, une attitude...
Tandis qu'avec...
Qui n'était pas une attitude, encore une fois, de d'irrespect total qu'avaient Pigas et Niel.
Et c'était d'autant plus.
C'est très intéressant, parce que ce sont des propriétaires de médias. Hein. C'est pas seulement
Même pas la base.
Des transactionnaires.
À la base, Niel, c'est le créateur de Free. Hein.
Bien sûr.
Ce que je veux dire, c'est
Mais aujourd'hui, il est quand même actionnaire.
Absolument. Ce que je veux dire, que ce soit Niel
groupe,
ou que ce soit Bolloré, leur métier de base, ce ne sont pas les médias.
Non.
Bolloré, c'est plus la logistique, et Niel, c'est l'informatique et le téléphone. Mm. Donc, ils sont venus aux médias par après. Pigas, je ne sais pas, par contre.
Mm. Non, l'histoire, non.
Alors, je voulais justement vous en parler à l'instant, qu'on écoute votre question. C'était le 2 avril dernier, en commission d'enquête, vous demandiez à Mathieu Pigas s'il ne combattait pas par hasard les Français avec leur propre argent.
Ma question est simple. Vous venez de dire que l'audiovisuel public doit être la représentation des territoires et des sensibilités. Considérez-vous comme moral, honnête, éthique, que l'argent des Français que vous combattez finance votre bataille idéologique. Je vous remercie.
Voilà, c'était la question d'Anne Sicard.
On n'a pas la réponse.
On a la réponse. On a la réponse de Mathieu Pigas. Est-ce qu'on peut avoir la réponse? Oui, voilà.
D'abord, sur la notion de bataille culturelle, vous avez raison, madame, moi je l'assume. Pour ce qui me concerne, hein, Vincent Bolloré ne le dit pas, mais le fait. Monsieur Sterrin le fait, mais se cache fiscalement en Belgique. Moi, je dis ce que je fais, et je fais ce que je dis. Ça ne devrait pas vous faire peur, puisque monsieur Bolloré a expliqué ici qu'il avait 80 000 salariés, et que mon groupe, je le cite, était un tout petit groupe de rien du tout avec 200 personnes. Vous savez quoi, on en est fiers. On a un côté village d'Astérix. On va résister à l'envahisseur et à ceux qui ont des valeurs qui nous paraissent contraires à celles de la République et de la démocratie. Et on va le faire avec force. Et donc, personne ne nous fera taire.
Voilà, ce sont les mêmes qui accusent Bolloré d'utiliser son argent pour promouvoir ses idées, etc.
Oui, oui, là, tout à fait.
C'est complètement assumé, c'est ce que vous disiez.
Oui, mais je ne sais pas si vous remarquez aussi, c'est les poncifs. En fait. C'est toujours la même chose. C'est la défense des valeurs de la République, nous allons lutter. Enfin, il a pas, je pense qu'il n'a pas changé depuis ses années étudiantes. Hein. C'est étonnant.
Ouais, c'est très étonnant. C'est vrai qu'on sent qu'il ne se pose absolument jamais aucune question.
Non, non, c'est le camp du bien.
C'est ça.
C'est le camp du bien.
Voilà.
Maître Pigas, il assume totalement, mais au moins il l'assume. Je trouve ça... Ce que Charles Alloncle, effectivement, et ce que la commission d'enquête a souligné, c'est qu'en étant actionnaire de Media One, une société de production qui travaille pour le service public, il peut y avoir effectivement une influence dans la mesure où lui assume en tant qu'homme de média qu'il utilisera ces médias pour lutter contre l'extrême droite. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'au moins... Au moins, lui, on ne peut pas lui reprocher d'assumer son combat contre l'extrême droite. Et maintenant, bingo, la commission a bien montré, effectivement, qu'avec Media One, il y avait ce lien. C'est ça qui est intéressant et qu'à terme, on verra, effectivement, dans les prochains jours, si elle voit le jour rapidement, mais les propositions, ou plus tard, si le rapport est refusé, mais les préconisations sur ces sociétés de production et dans quelle mesure il peut y avoir une meilleure indépendance.
Absolument. Media One, je rappelle que c'est une société de production qui produit énormément de programmes pour France Télévisions, notamment pour France 5, si j'ai bonne
mémoire.
C'est
la première.
Ouais. C'est ça, c'est la première. Ouais. Et donc cette société appartient à Mathieu Pigas, à Xavier Niel et à un troisième actionnaire qui s'appelle Pierre-Antoine Capton.
Exactement, qui a été auditionné aussi.
Et un fonds d'investissement américain.
Ouais. Voilà. Et ça, ils ont eu du mal à le dire aussi. Ouais.
Donc, il n'y a que des capitaux privés dans Media One.
Absolument. Oui, non, mais finalement, sur le fond, qu'ils soient de gauche, c'est pareil que Bolloré. Ils ont le droit de faire
c'est le fait de profiter
la stratégie. Simplement, ils le reprochent à
Bolloré. Des fonds publics.
C'est tout. Voilà.
Et ils le font par fonds publics, ce qui a été quand même...
Parce que par ailleurs, c'est un fleuron de l'audiovisuel français.
C'est ce qui d'ailleurs...
Et voilà, ils se sont cachés là-dessus.
Oui.
En disant que c'est une réussite, mais au même titre que Vincent Bolloré évoque très souvent le succès impressionnant de Canal+.
Mais c'est ce qu'ils ont dit. Mais si on est aussi... Voilà, si on est si investi dans l'audiovisuel public, c'est parce qu'on est les meilleurs et on est les premiers, donc c'est normal que... voilà, c'était leur argument, en fait.
Ouais, ouais. Argument facile. Alors, on a parlé de Nagui tout à l'heure. Là, je voulais qu'on écoute la question de Caroline Parmentier, députée Rassemblement National. À Nagui, elle rappelle tout simplement les engagements anti-Rassemblement National de cet animateur emblématique du service public.
Nagui, vous avez toujours pris des positions anti-Rassemblement national, des positions politiques et partisanes marquées. En 2024, comme déjà en 2017, vous exhortez les Français à faire barrage à Marine Le Pen. En 2017, vous co-signez une violente tribune dans Libé, intitulée « Madame Le Pen, vous n'aurez pas nos haines », affirmant que le Rassemblement national prospère sur les attentats islamistes qui ont endeuillé la France. En 2024, aux dernières législatives, vous appelez à une mobilisation contre le Rassemblement national pour sauver la culture et la liberté d'expression en grand danger. Mais vous, Nagui, en fait de liberté d'expression, vous censurez sur France Inter l'humoriste Pierre-Emmanuel Barré, Dans votre émission, la bande originale, à cause d'un sketch qui ne vous a pas plu, car il prône l'abstention au second tour de la présidentielle. Il ne prône même pas le vote pour Marine Le Pen, mais il prône l'abstention. Et vous déclarez que ce n'est pas de la censure, surtout par rapport à la vraie censure, qui risque d'arriver si Le Pen passe. Je suis sidérée qu'on banalise le fait que le FN soit au premier tour, qu'il n'y ait pas eu de manif. Alors vraiment, encourager l'abstention, ça me paraît irresponsable.
Voilà, question de Caroline Parmentier à l'animateur Nagui. Alors là, j'ai pas la réponse, mais c'est dommage, c'est vrai. Mais en tout cas,
généralement, elle rappelle... noie le poisson.
Oui, noie le poisson. En l'occurrence, Nagui, il faut le rappeler, est quand même financé par l'audiovisuel public, qui fait la quasi-totalité du chiffre d'affaires de sa société de production. Et donc, les engagements anti-Rassemblement National mentionnés par Caroline Parmentier, même parlant, Anne Sicard, il est toujours pareil. Hein,
ah bah c'est toujours pareil, en fait. Inatteignable. Oui, inatteignable. Alors, il a été pas mal attaqué. Alors, on a auditionné aussi Patrick Sébastien.
Oui, alors justement, on écoutera votre question.
Oui.
Et sa réponse.
Voilà,
sa réponse.
Exactement. Voilà. Ouais. Et donc, et voilà. Et Patrick Sébastien a fait remarquer qu'au fur et à mesure qu'on lui enlevait des primes, eh ben, c'était les émissions de Nagui qui remplaçaient en fait ces fameux temps d'antenne qui sont les plus regardés. Voilà. Donc c'est...
Nagui est arrivé sur les créneaux horaires qui étaient libérés par Patrick Sébastien. Allez, on l'écoute justement. Question de Anne Sicard à Patrick Sébastien. Anne Sicard lui demandait pourquoi Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, l'avait renvoyée. Et on a vu un Patrick Sébastien meurtri.
Oui, merci Monsieur le Président. Alors ma question s'adresse à Monsieur Sébastien. Alors on connaît la phrase de Delphine Ernotte hein, sur les hommes de plus de 50 ans. Vous expliquez que ce n'est pas la seule raison hein, de votre éviction de France Télévisions. Mais ne pensez-vous pas que votre éviction vient aussi du fait que le plus grand cabaret du monde, ce spectacle populaire et bon vivant, c'est la France telle qu'elle est et qu'on aime, et non pas la France, pour paraphraser Madame Ernotte, la France telle qu'elle voudrait qu'elle soit. Et c'est pour cela que vous avez été remercié.
Moi, ce que je veux surtout vous dire, c'est que quand j'étais minot, moi, je regardais la piste aux étoiles à la télé. J'ai commencé en rêvant chez Drucker, chez les Carpentiers et tout ça, et me retrouver devant une commission d'enquête aujourd'hui. Et après le complément d'enquête absolument dégueulasse qui est passé sur moi, franchement, ça restera pour moi, ce passage de Madame Ernotte sur ce service public, le côté le plus sombre de ma carrière, et croyez-moi que j'en ai connu des trucs, j'ai fait du musical, je continue à monter sur scène, à faire des milliers de kilomètres tous les ans pour gagner ma vie, pour faire l'artiste. J'ai tout connu, j'ai connu les Olympias, j'ai connu à peu près tous les drames, les succès, et je peux vous dire que la gouvernance de Madame Ernotte restera le côté le plus sombre et le plus décevant que j'ai eu de ma vie. Par bonheur, je vais me retrouver dans mon petit cabaret à côté de chez moi avec des gens normaux, sains, qui vont me réconforter. Parce que j'ai vécu au niveau du mépris, au niveau de l'idéologie, au niveau de... Effectivement, on va représenter la France. Elle est importante, cette phrase. Telle qu'elle est, mais telle ce que je voudrais qu'elle soit. La phrase, écoute, la France, telle qu'elle est, elle est ce qu'elle est. Et le drame de ce pays, au-delà de la télévision, c'est justement des...
Voilà,
gens qui voudraient...
Patrick Sébastien, on le sent dans le ton de sa voix, qui est vraiment meurtri. Hein. Alors, c'est un peu le cas, il faut le dire, hein, de tous les animateurs de télévision. Partir de la télévision, on le sait, c'est difficile, hein, quelles que soient les circonstances ou les raisons. Oui. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on lui a fait un procès de ce qu'il était, quoi. Hein. Donc,
exactement.
Donc son âge,
exactement.
Et sa couleur de peau.
Voilà, bon. Exactement, exactement. Et puis, encore une fois, ces émissions, Guy, comme je le disais dans la question, étaient des émissions populaires, des émissions bon enfant, des émissions... Moi, je sais que mes enfants regardaient le plus grand cabaret du monde chez leurs grands-parents. Ils étaient ravis de se mettre le samedi, je crois que c'est le samedi soir, dans le canapé avec leurs grands-parents pour regarder ça. En fait,
ah
voilà,
oui, c'était
sympathique. Il y avait pas de... Voilà, et les enfants pouvaient regarder. C'était... Voilà. Et
donc, il rappelle même la piste aux étoiles.
Oui, la piste aux étoiles. Alors ça nous rajeunit pas.
La piste aux étoiles.
Mais quand on écoute...
Auditeur de
Monsieur...
Gilles Margaritis.
Monsieur Sébastien.
Damien Chalamel.
On pense à Raymond Cartier, vous savez, il disait la Corrèze plutôt que le Zambèze. Et là, on se dit, mais finalement, c'est l'Égyptien plutôt que le Corrézien, quoi. Hein, c'est. Bah, évidemment, Monsieur Nagui, je ne sais pas son nom de famille, incarnerait plus la France idéalisée par Madame Ernotte que Monsieur Sébastien, qui sent trop le terroir,
c'est
de
ça.
Sorte. Quoi.
Ouais. Et comment est-ce qu'elle a réagi, Delphine Ernotte, lorsque vous l'avez questionnée sur Patrick Sébastien notamment, et sur ses évictions hein.
Alors,
Sébastien. Ouais.
Alors, j'ai pas questionné Delphine Ernotte particulièrement sur l'éviction de Patrick Sébastien, mais de toute façon, c'est quand même, ces gens-là ont des capacités incroyables pour noyer le poisson, pour partir, pour arriver à se justifier, pour partir dans des digressions, et finalement, justifie tout. Mmh. Justifie tout. Ou l'autre réaction, c'est pas de ma faute.
Mais moi, il y a un point qui m'a sidéré quand. Madame Ernotte a été entendue, je crois, la deuxième fois, puisqu'elle a été entendue. C'est son absence de maîtrise des chiffres, en particulier des chiffres de progression de la dotation publique de France Télévisions. C'est sidérant. C'est-à-dire qu'à ce niveau, alors, non seulement vous avez énormément d'arrogance, puis de l'incompétence. Parce qu'on attendrait de Madame Ernotte qu'elle maîtrise au moins ces chiffres.
Mais...
J'allais vous poser la question près. De quelle impression est-ce qu'elle vous avait laissé cette...
Alors, la première fois qu'elle a été auditionnée, je l'ai trouvée, elle était vraiment dans ses petits souliers, très stressée. Très stressée. Elle est restée plutôt. Elle répondait aux questions, mais de manière vraiment très discrète. Vraiment, c'était. Mais ma deuxième audition, en revanche, alors là, elle avait vraiment changé du tout au tout. Elle avait repris du poil de la bête, elle était plutôt offensive. D'ailleurs, elle s'est fâchée à un moment donné en disant « Oui, c'est plutôt insultant, je ne sais plus pourquoi. » Enfin, elle était beaucoup plus offensive à l'égard des questions du rapporteur. Mais les chiffres, je ne sais pas si elle... Je ne pense pas, c'est pas qu'elle ne les maîtrise pas. C'est qu'en fait, elle répétait comme un refrain ce qu'on lui avait dit de dire.
Ça sentait le coaching.
Voilà, c'est tout. Elle ne répondait pas à la question. Charles Lalonde revenait dessus et elle continuait à redire la même chose sans bouger en fait de sa ligne de défense, si je puis dire.
C'est une bataille de tableau, une bataille de chiffres. Chacun avait sa version.
Chacun avait sa version, sauf que la version du cours des comptes, la Cour des comptes est incontestable. Bon. Et elle doit le savoir, elle les connaît, ces chiffres. Elle est supposée les connaître, du moins.
Et le rapport de la Cour des comptes, qui a été en fait enterré, après, pour n'être publié qu'après la nomination de Delphine Ernotte, le renouvellement de Delphine Ernotte. C'est ça qui est incroyable.
Ouais. Oui, c'est ça.
Parce que normalement,
il
aurait dû sortir. Et en fait, ils ont attendu que Delphine Ernotte soit renommée.
Soit renouvelée
pour publier les chiffres de la Cour des comptes qui étaient catastrophiques pour France Télévisions.
Ouais, et le président de la Cour des comptes a avoué que le rapport avait attendu.
Hein. Voilà. Il n'a pas dit exactement pourquoi, mais en fait, en tout cas, il a dit effectivement que le rapport avait attendu.
C'est ça.
C'est d'ailleurs, encore une fois, grâce aux questions de Charles Lalonde, qui est revenu.
C'est pas nouveau, on avait eu ça aussi, si je me rappelle, l'an dernier, sur le rapport sur l'immigration, qu'on avait aussi attendu de le publier. C'était aussi. Est-ce que c'était la Cour des comptes? Oui. C'était Moscovici.
C'était la
Cour des comptes. Qui, encore une fois, avait considéré que le timing n'était pas bon parce qu'on était en plein scrutin électoral, c'était campagne électorale, et donc avait décalé la parution. C'est quand même extraordinaire. La capacité de manipulation des masses par l'absence de gestes, c'est ce qu'il y a de plus frappant, quoi. Hein. C'est des choses qu'on ne dit pas, des gestes qu'on ne fait pas, des rapports qui ne sont publiés qu'après, etc. Mais tout cela participe de la manipulation, non ? Ça porte ce nom-là.
Exactement. Oui, il n'y a pas d'autre mot.
Il n'y a pas d'autre mot. Allez, on va clore le sujet audiovisuel. Et puis, je voulais vous poser quelques questions sur le référent Evars. Vous allez nous expliquer ce que c'est que le référent Evars, parce que c'est un de vos combats à l'Assemblée nationale. Et puis, on parlera d'un autre de vos combats, qui est l'interdiction du voile dans les conseils municipaux. Voilà, pour terminer. Juste après cela.